Histoire de la côte.
Bienvenue à Histoire de la côte. Mon nom est Alain Roy et je suis directeur artistique au Théâtre populaire d'Acadie, une compagnie de théâtre qui a pignon sur rue à Caraquet, dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Tout jeune, j'ai été fasciné en lisant les histoires de M. Antonin Friolet dans le livre « Caraquet, village au soleil ». Contes, légendes, récits de toutes sortes font partie de notre imaginaire et de notre patrimoine. Mais voici des histoires qui, bien que romancées par M. Friolet, reposent toutes sur des faits historiques. Elles se sont déroulées le long de nos côtes. Je vous invite à les découvrir par la voix de nos comédiens et comédiennes, agrémentés de captivantes mises en contexte par nos historiens et, à la fin de chaque histoire, des invités spéciaux qui viennent enrichir ces récits incroyables, bien que réels. Bonne écoute!
Épisode 3.
Les doigts brûlés. Les longs doigts effilés de la pianiste effleuraient légèrement les touches du clavier. Elle jouait pianissimo, le nocturne opus 9, numéro 2 de Chopin. Au cours de la soirée de ce lundi 28 décembre 1903, l'épinette qui brûlait dans la cheminée parfumait de son arôme le petit salon de la confortable demeure des Reeves qui, surplombant la baie, s'abritait frileusement sur la rive gauche du ruisseau des Chenards à Caraquet. Marie-Estelle jouait doucement, comme perdue dans ses rêveries. Sa sœur aînée, Joséphine, assise sur le divan, lisait un livre de poésie. La mère, dont les cheveux blonds, coiffés à la Pompadour, accentuaient ses traits irlandais, faisait du crochet et semblait très satisfaite de sa bonne fortune. Catherine Dwyer Reeve avait des raisons d'être satisfaite. Elle avait bien réussi. Très bien réussi, pour dire la vérité. Son fils aîné, Harry, qui avait obtenu son baccalauréat 4 ans auparavant, avait abandonné ses études en droit afin d'aider son père, âgé de 65 ans, dans son commerce de poissons. Philip devait obtenir son diplôme au printemps et Rupert, la prunelle de ses yeux, avait encore une autre année d'études et deviendrait à coup sûr avocat. Joséphine avait déjà terminé ses études au couvent Mount St. Vincent à Halifax. Marie-Estelle, qui n'avait pas encore 18 ans, avait encore une autre année d'études à faire au même établissement dirigé par les Sœurs de la Charité. Ses filles étaient très intelligentes et la lettre que lui avait envoyée Sœur Cécilia, le professeur de musique, louait Marie-Estelle pour son talent musical. Marie-Estelle était svelte et très belle. Elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus de sa mère et un maintien tranquille et rempli de dignité que l'on voit chez les personnes destinées à occuper une place importante dans la société. Joséphine était belle aussi, mais de taille moyenne. La mère n'avait pas encore décidé de l'avenir de Joséphine. Peut-être serait-elle maîtresse d'école. Même si l'on peut tout prévoir, réfléchissait-elle, il y a loin de la coupe aux lèvres. La soirée ne faisait que commencer, et Philip, le père, travaillait avec Harry à son magasin de l'autre côté du chemin.
Jersey. Jersey fait partie de l'archipel des îles anglo-normandes, situé au nord de la France.
Clarence Le Breton, historien.
C'est notamment sur l'une de ces îles, soit celle de Guernsey, où Victor Hugo s'exila au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1852, portant Napoléon III au pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Les Jerseyais, que les gens de la péninsule acadienne appelaient des Jarseys, sont venus le long de nos côtes très tôt, dès la fin du 18e siècle, pour y faire le commerce du poisson, vu l'abondance de la morue dans la baie des Chaleurs et dans le golfe du Saint-Laurent. Philip Reeve, né en 1838 à Saint-Pierre de Jersey, arriva à Caraquet à l'âge de 18 ans. en tant qu'apprenti chez la firme WM Throwing, également présente à Caraquet, est une autre compagnie jerseyaise, la Charles Robin Company, présente aussi à Passe-Mibiac en Gaspésie et à Chiticon au Cap-Breton, et à plusieurs autres endroits d'ailleurs. Après quelques années chez les Throwing, Philippe Reeve lance sa propre entreprise avec magasins, entrepôts et autres bâtiments pour la manutention du poisson. La nouvelle compagnie portait le nom d'Alexander Henry. En 1876, plus précisément le 15 novembre, Philippe Reeve épouse Catherine Dwyer de Rexton au Nouveau-Brunswick. Institutrice, elle était en poste à Caraquet lors des troubles scolaires de 1875, pendant lesquels deux personnes y perdirent la vie. Plus connue sur le vocable de l'affaire Louis Mayou, ce triste événement mettait en lumière la minorité anglo-protestante de Caraquet avec ses pouvoirs, tant économiques que politiques, face à la majorité acadienne, catholique, francophone, pauvre, peu instruite, mais surtout endettée auprès de ses compagnies jerseyaises. La famille Reeve habitait une somptueuse demeure près du quai de Caraquet, qui servait aussi d'auberge du nom du Seagull Inn, malheureusement détruite au milieu des années 60. Philippe Reeve et Catherine Dwyer eurent 7 enfants, dont Marie-Estelle, née le 8 janvier 1888. La famille faisait partie de la minorité anglo-protestante de Caraquet, avec les Young, les Black Hall, les Soul, Nixon, Burbridge et autres. Soulignant cependant que les Jerseyais étaient de religion protestante, mais parlaient le français, étant à l'origine des Huguenots, chassés de la France avec la révocation de l'édit Nantes en 1685 par le roi Louis XIV. Cependant, puisque sa femme était de religion catholique, Philippe Reeve se convertira au catholicisme et ses enfants furent élevés dans la religion de leur mère.
Marie-Estelle n'avait pas l'esprit à pratiquer les leçons de piano comme le lui avait recommandé Sœur Cecilia pendant la saison des vacances. Son esprit était ailleurs. À St. Andrews, au sud du Nouveau-Brunswick, avec un jeune médecin qu'elle avait rencontré l'été précédent. Au couvent de Halifax, Marie-Estelle s'était liée d'amitié avec une jeune étudiante de St. Andrews et elle avait été invitée à y passer quelques semaines l'été dernier. C'était là où elle avait rencontré un jeune médecin qui pratiquait la médecine depuis quelques années seulement. Marie-Estelle se voyait déjà l'épouse tendre et aimante du jeune médecin qu'elle pourrait aider dans sa pratique si elle devenait infirmière diplômée. Elle pensait que son destin était tout tracé. Elle se ferait infirmière. De retour à Caraquet, après ses vacances à St. Andrews, elle fit part de ses intentions à sa mère avec un grand enthousiasme. Mais celle-ci les écarta catégoriquement. Mais lorsque, durant la période de Noël, Catherine découvrit un paquet de lettres retenues par un ruban rose, elle commença à s'alarmer. Ces deux forts caractères irlandais eurent une vive discussion, au cours de laquelle la mère répliqua avec fougue que sa fille ne s'abaisserait pas à laver les dernières salles des autres. Il n'y avait pas à discuter. La question était réglée. Tout en écoutant Marie-Estelle, qui maintenant jouait si doucement le nocturne de Chopin, elle se sentait soulagée d'un poids, car, pensait-elle, sa fille avait fini par entendre raison et avait accepté la décision de sa mère, comme toute fille obéissante se doit de le faire. Mais elle se trompait. Songeant à la vive discussion qu'elles avaient eue au cours de cet après-midi où elles donnèrent libre cours à leurs émotions, Marie-Estelle, avec rage, commença à faire entendre les accents de la polonaise militaire de Chopin sous l'emprise du ressentiment. La mère se raidit, tandis que sa fille continuait à jouer ce morceau crescendo. La mère cria à Marie-Estelle d'arrêter ce vacarme infernal. Marie-Estelle martela de ses poings crispés le clavier dans une cacophonie de bruit et courut à sa chambre. Joséphine fit mine de la suivre, mais sa mère la retint. « Laisse-la, elle sortira vite de sa colère. » En 1876, Catherine Dwyer arriva de Sussex pour enseigner à Caraquet. C'était l'institutrice de langue anglaise qui avait été engagée par Black Hall avant la réunion du 14 janvier 1875 qui allait déclencher une émeute à Caraquet. Là, elle fit la connaissance d'un beau jersiais, Philip Reeve, de souche huguenote, qui tenait avec succès un commerce de poissons dans la côte nord. Il lui fit une cour de courte durée. Elle n'enseigna probablement que jusqu'à la mi-année, car en l'automne de cette même année, ils se marièrent. Le couple avait convenu que, s'ils avaient des enfants, les garçons seraient élevés dans la religion du père, tandis que les filles prendraient la religion de la mère. On peut fort bien s'imaginer que son tempérament irlandais dominateur et son charme féminin la portaient à penser qu'elle viendrait à bout d'une telle situation, comme le lui suggéraient ses fortes convictions religieuses. En temps opportun, elle persuada Philip d'envoyer les garçons à un établissement français, disons le collège Saint-Joseph de Memramcook, pour y décrocher un baccalauréat, et ensuite à quelque université anglaise pour parfaire leur éducation. Ce qu'elle avait à l'esprit, c'était d'exposer ses fils à un milieu catholique qui rendrait plus facile la conversion en temps voulu. C'est exactement ce qui se produisit.
Philip Reeve sera témoin de l'affaire Louis Mayou de janvier 1875, pendant laquelle un jeune Acadien de 19 ans, du nom de Louis Mayou, perdit la vie, ainsi que John Gifford, 22 ans, milicien, venu de la Miramichi pour mater la révolte de Caraquet. Suite à l'adoption par le gouvernement du Nouveau-Brunswick d'une loi établissant des écoles non confessionnelles, un groupe d'hommes de Caraquet décide de prendre les choses en main, en faisant entre autres démissionner les syndics scolaires parmi lesquels nous retrouvons Philip Reeve et James Blackall. James Blackall était juge de paix et occupait maintes fonctions d'ordre civil à Caraquet. Fils d'immigrants écossais, la famille Blackall était établie à Caraquet depuis 1822 et au cours des ans avait accumulé plusieurs postes, en plus de juge de paix. Blackall, fils, est officier de douane, chef de la milice, responsable des signaux pour la météo, inspecteur des clôtures et j'en passe. Pendant les troupes scolaires de janvier 1875, les miliciens venus de Bathurst et de la Miramichi se rendent chez André Albert afin d'arrêter Joseph Chiasson et comparse. Ils y sont conduits par nul autre que Blackall, agissant comme interprète. C'est dans cette modeste demeure que le drame se déroula, suite à la découverte par les miliciens que des personnes se cachaient au grenier. S'en suivit de nombreux coups de feu, où Mayou et Gifford perdurent la vie. Le shérif procéda par la suite à 22 arrestations, dont Joseph Chiasson et 8 autres accusés du meurtre de Gifford. La mort de Louis Mayou ne fit pas de coupable. Ce dernier fut tué en entravant le cours normal d'une action policière. C'est dans une atmosphère de tristesse et de gêne qu'eurent lieu le 2 février 1875 au matin les funérailles de Louis Mayou, pendant lesquelles le curé de la paroisse, le révérend Pelletier, exhorte les paroissiens de mettre fin à la violence. Le bon curé se voit peu de temps par après exilé dans les fins fonds du Madawaska par l'évêque, qu'il accuse d'avoir contribué à la fermentation de ses troubles. Pendant ce temps, à Caraquet, une épidémie de picotte fait rage et de nombreuses personnes meurent, surtout des enfants.
Harry aida son père à diriger son commerce de poissons jusqu'à la mort de ce dernier en 1910, à l'âge de 72 ans. 20 ans après, c'était un prospère voyageur de commerce, auteur d'articles et de poèmes dans les journaux et autres publications. Il publia également un recueil de poèmes. C'était un homme de haute taille et de belle prestance, dont le sens de l'honneur et la compréhension étaient appréciés de tous. Il se serait probablement marié plus tôt si les préjugés et les conventions sociales de sa mère et de ses sœurs n'avaient mis fin à ses prétentions. Maintenant que le père et la mère étaient décédés, la promesse qu'il avait faite à Catherine sur son lit de mort de prendre soin de son pauvre frère Philip et de ses deux sœurs n'avait plus raison d'être, car il pouvait se débrouiller sans lui. Ceux-ci s'occupaient de la Seagull Inn durant les mois d'été et les bénéfices qu'ils en retiraient leur permettaient de passer les hivers loin de Caraquet enneigée. Il y avait une belle fille à la taille élancée à Caraquet qui était tout aussi belle que la mère de Harry, d'une allure tout aussi majestueuse et d'une beauté tout aussi séduisante, mais à la chevelure noire comme le jais. Elle n'était pas encore née lorsque Harry allait au collège, mais lorsqu'elle atteignit l'âge où les garçons commencent à remarquer les filles, Harry, lui aussi, fut sous le charme, et il se mit à visiter la famille de Jeannot Albert, qui demeurait à un quart de mille de la demeure Reeve. Il se mit à parler à Joséphine régulièrement. Il ne faisait que parler, point d'invitation à aller se promener, encore moins à aller à une danse. Éventuellement, Joséphine obtint un diplôme d'infirmière à l'hôpital de Campbellton au Nouveau-Brunswick, où elle travailla pendant quelques années. Elle alla plus tard exercer sa profession dans les hôpitaux new-yorkais pendant 9 ans. Harry lui écrivait souvent et lui contait ce qu'il faisait ou ce qu'il voyait au cours de ses voyages, sans jamais lui dévoiler le fond de son cœur. Il se voyait lorsque Joséphine revenait à Caraquet pendant les vacances d'été. En 1937, elle dut prolonger ses vacances parce qu'elle avait contracté la fièvre typhoïde et avait été hospitalisée à Campbellton. Harry la visitait chaque fin de semaine, parcourant une distance de quelques 190 kilomètres et finit par lui adresser une demande en mariage. Elle avait 20 ans de moins que lui. Cette année-là, il cessa de travailler comme voyageur de commerce et les époux vécurent une vie comblée de jouissance pendant 20 années jusqu'à la mort de Harry en 1957 à l'âge de 79 ans.
Les anglophones de Caraquet contribuèrent beaucoup au développement de la région. Philip Reeve, entre autres, fut très impliqué dans différentes organisations. Fondateur de l'une des plus anciennes chambres de commerce du Nouveau-Brunswick, soit celle de Caraquet en 1920, il était aussi juge de paix en plus d'y mener grand commerce. L'un des projets ayant le plus captivé l'imagination, en plus de l'espoir à toute une population, est certes la construction d'un chemin de fer reliant la péninsule acadienne à Bathurst, où passait le train reliant Halifax à Montréal. Débuté en 1884, le train fut inauguré en 1887. Quand arrive la locomotive à Caraquet, reliée à quelques wagons où ont pris place les dignitaires pour l'occasion, le discours de bienvenue est prononcé par Philip Reeve, qui voit dans ce nouveau chemin de fer l'infrastructure qui permettra à toute une région d'accéder à des marchés et à une population de voyager. Pour Reeve, la péninsule acadienne était dorénavant reliée au continent nord-américain.
Philip travailla aux côtés de son père comme commis, sous la surveillance de son frère Harry, jusqu'à la mort du père. Le commerce de poissons commença à décliner, mais il continua quand même, pendant quelques années, comme marchand général. Il aida ensuite ses deux sœurs à gérer la Seagull Inn, immeuble qui était jadis l'ancienne demeure luxueuse des Reeve. Il mourut en 1960 à l'âge de 78 ans. Il n'avait contribué que très peu au service de la communauté qui tenait sa famille en si grande estime. La prunelle des yeux de Catherine, Rupert, étudia le droit à l'Université d'Oxford grâce à une bourse d'études Rhodes. Il revint d'Angleterre, diplômé en droit et marié à une Anglaise, qui insista que sa sœur les suive au pays. Il s'établit à Moncton, où il ouvrit une étude d'avocat. Le ménage n'était pas heureux. Imaginez, deux impérialistes britanniques faisant ménage avec un colon canadien. Rupert chercha la consolation et l'oubli dans la bouteille à son étude après le travail. Il ne mettait guère les pieds à la maison pour éviter les deux sœurs, esclaves d'un penchant qui priva la société du Nouveau-Brunswick d'un homme très intelligent. Il exerça différents métiers et pendant un certain temps, il occupa un poste au ministère de la Santé et du Bien-être du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Il est décédé à l'hôpital général de Saint-Jean à l'âge de 77 ans. Il fut inhumé à Caraquet avec les honneurs réservés au boursier Rhodes.
L'un des fils de Philip Reeve et de Catherine Noyeux était Rupert Walker, et il fut au centre d'une controverse au début du 20e siècle. Gradué du Collège Saint-Joseph de Mermancook, l'ancêtre de l'Université de Moncton, il sera le récipiendaire de la prestigieuse bourse Cecil Rhodes, permettant d'aller étudier à l'Université Oxford en Angleterre. Pour le journal de l'époque évangéline, il était inacceptable qu'un anglophone d'origine jerseyaise puisse obtenir cette bourse au détriment d'un Acadien, le Collège Saint-Joseph étant avant tout une institution pour l'avancement des Acadiens. Le journal oubliait cependant que le Collège Saint-Joseph était bilingue afin d'accommoder les Irlandais catholiques. De courte durée, cette controverse n'empêcha pas Reeve de fréquenter Oxford et d'y obtenir une licence en droit. À ses funérailles en 1961, cette histoire était loin derrière, mais il reçut pour l'occasion les honneurs réservés au boursier Rhodes.
Catherine Dwyer Reeve pensait qu'il n'existait à Caraquet aucun jeune homme digne de ses filles. Les plus riches étaient des Jerseyais de religion protestante. Elle refusait catégoriquement que ses filles se marient dans ce milieu. Les partis possibles se trouvaient parmi les Français de religion catholique, certes, mais pêcheurs pour la plupart, ce qui n'était pas pour lui plaire. C'est pourquoi les deux sœurs ne sortaient guère, vivant comme des nonnes au couvent, sous l'œil religieux de leur mère, qui insistait pour que l'on dise des prières tous les après-midi jusqu'à sa mort en 1909. Ainsi, les deux sœurs vécurent-elles comme des recluses sans prendre part au commérage des gens ni aux activités de la paroisse. Elles étaient toujours bien mises, elles portaient des vêtements du dernier cri, mais on ne les a jamais vues en compagnie de jeunes gens de leur âge. Elles se seraient peut-être orientées vers un autre genre de vie si le 28 décembre 1903 n'était survenu dans la famille Reeve l'incident déplorable que voici. Marie-Estelle s'était blessée aux mains lorsque, dans sa rage, elle frappa les touches du clavier. Mais il s'agissait seulement d'une contusion. Ce qui l'avait surtout blessée, c'était l'entêtement de sa mère qui persistait à la détourner de ses ambitions. Elle avait des palpitations et la tête lourde, car les cris de sa mère et ses propos déraisonnables lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle voulut brosser ses longs cheveux dénoués, mais elle ne le put, en proie à une tension et à une nervosité grandissante. La brosse lui glissait des mains. Elle enduisit ses mains d'une crème, ses mains qui, au dire de sa mère, lui permettraient de faire une carrière brillante comme pianiste de concert. Ses mains qui, selon elle, pourraient tout aussi bien soigner les malades si elle travaillait comme infirmière aux côtés de l'homme de ses rêves. Quittant brusquement la table de toilette, Marie-Estelle ajusta la ceinture de son peignoir et descendit au petit salon. Catherine leva la tête et lui adressa son plus gracieux sourire, comme si rien ne s'était passé cet après-midi-là. Toute la rancune accumulée de Marie-Estelle lui vint aux lèvres et elle fit face à sa mère, ne sachant plus ce qu'elle disait ou faisait, tant était grand son chagrin.
« Regarde bien ses mains, Catherine Dwyer. » Si ses mains sont la cause de mon infortune, je vais les détruire. »
Sur ces paroles, elle courut à la cheminée et ensevelit ses mains dans les braises rougeoyantes. Catherine Dwyer s'évanouit et s'écrasa sur le plancher. Joséphine poussa des hurlements de surprise qui firent accourir ses frères. Le père entra brusquement à la maison et prit sa fille délirante dans ses bras en faisant entendre ces mots « God damn it, she led you to this ». Marie-Estelle resta quelques mois à l'hôpital de Campbellton pour essayer de se rétablir de sa blessure et de son esprit troublé. Mais l'on ne put sauver ses doigts. Elle dut être amputée de la seconde jointure. Elle avait décidé de son destin. Elle ne pourrait jamais plus espérer devenir une pianiste accomplie ni être acceptée dans une école d'infirmières. Elle passa le reste de ses jours à Caraquet et dirigea la Seagull Inn en compagnie de sa sœur, et personne ne put jamais apercevoir ses mains qu'elle gardait toujours gantées. Elle ne connut pas ce bonheur auquel elle avait droit à cause d'une mère par trop possessive. Elle mourut en 1965.
Quand j'étais enfant, j'ai connu Marie-Estelle Reeve, le personnage central de cette histoire. La famille Reeve, au nom de cet enfant, a pour particularité de n'avoir laissé aucun descendant. Molly étant décédée en bas âge, alors que Rupert, le boursier, eut un mariage malheureux et mourut à Caraquet sans enfant. Harry, représentant de commerce et poète à ses heures, épousa une Acadienne, Joséphine Albert, et le couple n'aura pas d'enfants. Philippe Junior, Joséphine et Marie-Estelle moururent tous célibataires. J'ai souvenir que lorsque l'on voyait Marie-Estelle, ses mains étaient toujours cachées, les manches de son chandail ou encore de son manteau tirées pour dissimuler ses membres atrophiés.
À l'autre bout de la province, le jeune médecin de St. Andrews n'en finissait pas d'attendre. 22 ans plus tard, à l'âge de 48 ans, il épousa une riche héritière de la Californie qui lui donna 2 fils et 1 fille. Il mourut en 1966, à l'âge de 89 ans. Rien ne subsiste de la famille Reeve à Caraquet ou au Canada. Force nous est de le constater. Même la Seagull Inn, avec tous ses secrets enfouis dans sa structure éblouissante de blancheur et de beauté, est disparue, comme si le destin l'avait voulu ainsi. Elle tomba sous l'emportement des démolisseurs au début des années 60, pour faire place à la somptueuse résidence d'un homme d'affaires important de la région.
En hommage à la famille Reeve, aujourd'hui disparue, voici 2 poèmes du fils aîné de Philip Reeve, Harry Martin Reeve. The Old Fisherman, le vieux pêcheur, et The Return of the Fleet, le retour de la flotte, sont tirés de recueils intitulés Simple Songs of Simple Things, où le poète nous présente des scènes de la vie quotidienne le long de nos côtes pendant la première moitié du XXe siècle.
The old fisherman, he sits for hours on the wharf.
Assis des heures au bout du quai, son regard vogue au large. Qui sait les songes par milliers qui peuplent sa mémoire?
He's there to watch the fleet come in.
Il vient voir la flotte accoster, la flotte appareillée, et voir les voiles déferler aux cris des capitaines. C'est sûr, il songe à d'autres jours quand, maître d'équipage, bravant les humeurs de l'orage, il fonçait, téméraire. Ce soir, en descendant la dune, il sent le poids des ans. Où est la voix qui calmera la houle de la vie?
The return of the fleet. The fishing fleet is coming in. The words in
La flotte des pêcheurs arrive et le mot se répand. Ils foncent sur l'anse aux voleurs au sud, loin, là-bas. Change de cap et puis louvoie, craignant les bancs de l'île, qui souvent jouent de mauvais tours, même aux marins rusés. Voici les navires au chenal à la vue du village. Ils replient un à un leurs ailes, comme des goélands. Aux cierres garnies de l'immonde, les dories se dépêchent. Les marins se hissent au quai, où languissent des cœurs. Les récits du voyage bruissent, on cherche à tout entendre. Aux uns, la fortune sourit, la peur aux autres aussi. Le quai se vide, et la nuit tombe, et la mer murmure. Les lampes meurent dans les massures, des marins assoupis.
Histoire de la côte est un balado du Théâtre populaire d'Acadie en collaboration avec la ville de Caraquet. Les textes sont tirés du recueil de l'auteur J. Antonin Friolet, Caraquet, village au soleil, publié à compte d'auteur en 1978 et réédité, toujours à compte d'auteur, en 1980 et en 1994 sous le titre « Voici Caraquet ». Nous désirons remercier Mme Marie-Gabrielle Durand-Foxonnet, épouse de feu J. Antonin Friolet, de nous avoir accordé le droit d'utiliser ces récits. Nous remercions également Mme Aline Landry, agente de patrimoine à la ville de Caraquet, pour sa précieuse collaboration. Nous voulons souligner que les terres mentionnées dans ces histoires et sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font partie du territoire ancestral non cédé de la nation Mi'kmaq. Lectrice, Diane Lausier. Historien, Clarence Le Breton. Invité, Bernard Reardon, lecteur des poèmes de Harry Reeve en anglais, et Jean-Philippe Reich, traducteur et lecteur des poèmes de Harry Reeve en français. Prise de son pour la voix de Jean-Philippe Reich, Louis-Philippe Chiasson. Pianiste, Nocturne Opus 9 numéro 2 et Polonaise militaire de Chopin, Pierre-André Doucet. Prise de son piano, Xavier Richard. Prise de son pour les voix de Ghislain Basque et de Alain Roy, Dennis Morton. Mise en ligne et conseillère à la réalisation, Noémie Lavoie. Enregistrement, prise de son, musique, environnement sonore et montage, Jean-François Mallet. Réalisation, Alain Roy et Ghislain Basque.